aujourd'hui, on est limité en informatique, mais par deux ressources, c'est l'argent et c'est le temps. L'informatique quantique, ça ouvre vraiment un truc parallèle qui permet de dire, ok, bah on a un truc à recommencer à zéro, et là, on peut aller beaucoup plus loin encore.
Bonjour à toutes et à tous, c'est avec une joie teintée d'appréhension que je vous accueille dans un nouvel épisode de Zoom Zoom Zen, probablement le plus exigeant intellectuellement de tous nos épisodes. En effet, en ce 687e numéro, on va pousser vos neurones dans leurs ultimes retranchements en zoomant sur l'ordinateur quantique. Nous y connaissons assez peu en ordinateur, je rappelle que Cyril n'est pas encore tout à fait à l'aise sur Windows 98. Nous y connaissons encore moins en physique quantique, nous avons voulu nous familiariser avec ce sujet complexe en regardant tous ensemble une vidéo de vulgarisation sur YouTube. Cyril a installé le vidéoprojecteur. Une demi-heure plus tard, nous étions prêts à choisir entre trois vidéos qui se proposaient d'expliquer le principe de l'ordinateur quantique. Deux faisaient plus de 25 minutes. Notre choix s'est donc rapidement porté vers celle qui s'appelait « Tout comprendre à l'ordinateur quantique en 3 minutes ».
Je m'appelle Antoine, je vous parle de science et vous êtes sur Antoine versus Science. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment fonctionne un ordinateur quantique, pourquoi il pourrait révolutionner notre quotidien. Dans un ordinateur classique, tous les calculs se font avec des bits.
Bon là, évidemment, wow. Manon n'a pas pu s'empêcher d'intervenir. Mais globalement, on suivait encore. Hélas, on avait commencé la vidéo que depuis 30 secondes et la suite allait s'avérer beaucoup plus compliquée.
Dans un ordinateur classique, tous les calculs se font avec des bits, ces fameux 0 et 1. Okay. L'ordinateur quantique utilise lui des qubits qui sont à la fois des 0, des 1 et toutes les valeurs intermédiaires. Si c'est possible, c'est grâce aux propriétés de la physique quantique, une particule peut se trouver dans plusieurs endroits en même temps et dans plusieurs états à la fois. Ça s'appelle la superposition des états et c'est un des fondements de la physique quantique.
Je me retournais vers mes camarades. Le vide que je lus alors dans leur regard. Un vide teinté de désespoir qui n'était pas sans rappeler l'encéphalogramme de Cyril durant notre émission sur le matriarcat. Les pompiers de Radio France avaient même failli le déclarer mort ce jour-là. Ce vide abyssal que je lus donc dans leurs yeux fut pour moi un électrochoc, une prise de conscience terrible. Nous étions vraiment des buses en physique et en informatique. Mais comment rattraper 40 ans d'incompétence en une heure? Comment vous éclairer sur la révolution de l'ordinateur quantique? Si nous-mêmes sommes incapables d'y comprendre quoi que ce soit, eh bien, il ne restait qu'une seule solution. Inviter le meilleur. Le boss de fin de l'informatique, le Don Corleone de l'ordinateur, le directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Zoom Zoom Zen, c'est parti.
France Inter. Zoom Zoom Zen. Mathieu Noël.
Et bonjour Vincent Strubel.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Inter. Vous êtes ingénieur général des mines, déjà, ça pose déjà un homme. Directeur général de l'ANSSI. Alors l'ANSSI, c'est donc cette Agence nationale de sécurité des systèmes d'information. C'est vous qui êtes chargé de prévenir et de contrer, le cas échéant, les cyberattaques menées contre notre territoire. C'est une agence de l'État qui existe depuis 2009 et qui est directement rattachée au service du Premier ministre. Vous vous définissez vous-même comme un cyberpompier. Hier, par exemple, on apprenait qu'1,2 million de comptes bancaires avaient été consultés par un pirate informatique depuis fin janvier. Qu'est-ce qui s'est passé?
Il s'est passé ce qui se passe très régulièrement, c'est-à-dire des attaques qui exploitent des vulnérabilités, des portes pas bien fermées dans nos systèmes informatiques et qui permettent, alors ce qu'on voit beaucoup, des fuites d'informations, des informations qui se retrouvent dans la nature et qui sont toujours graves. Hein. On sait nos informations, nos secrets personnels, ce qu'on est, nos données bancaires ou en tout cas nos IBAN par exemple. Et puis il se passe plein d'autres choses. Malheureusement, il y a d'autres types d'attaques. Il y a des attaques qui visent le sabotage, par exemple, qui vise à couper le courant. Là, ça a failli se produire en Pologne la veille du Nouvel An. Il y a des attaques quotidiennes d'espionnage qui sont ce que font les États depuis toujours, mais maintenant dans le domaine du numérique.
En tant que cyberpompier, j'adore cette expression, vous nous alertez sur une menace encore plus importante qui pèse actuellement sur nos systèmes de sécurité informatique, l'arrivée annoncée de l'ordinateur quantique, ce super ordinateur qui pourrait, si j'ai bien compris, hacker instantanément tous nos mots de passe, tous les antivirus, tout ce qui nous protège au quotidien et qui fait fonctionner l'économie, les services de l'État, notre système de santé. Comment ça marche cet ordinateur quantique? C'est ce qu'on va essayer de comprendre avec vous cet après-midi. C'est ce que vous allez nous dire, juste le temps de vous présenter deux as de l'informatique à qui on ne la fait pas. Leurs données personnelles sont bien protégées grâce à leurs mots de passe robuste, respectivement, la Marianoche 75 et fuck le fisc 61. Fuck avec un F majuscule, c'est bien joué, c'est bien joué, Quentin. Manon Mariani, Quentin, lui, bonjour.
Bonjour.
Allez, bonjour à tous.
Manon, j'espère que vous nous l'envoyez depuis une boîte mail sécurisée.
Bien sûr.
Dans votre pièce jointe aujourd'hui.
Un film, il a marqué toute une génération avec ses personnages au manteau long, ses plans ralentis et sa musique géniale. Écrire cette chronique m'a donné envie de le revoir. Je pense que vous avez compris.
Ah là, c'est bon, oui, pas besoin de le dire, on a compris. Face à vous, Vincent, pour cette émission, il a réalisé l'impossible, à savoir poser des questions à des gens sur un sujet qu'il ne connaissait absolument pas, sachant que lui-même n'y comprenait rien, et quand même obtenir des réponses qui tiennent la route. Miracle ou talent ? Nous aurons la réponse tout à l'heure, Quentin.
Miracle ou talent ? Toujours un peu des deux, hein ? Comme tous les jours. J'avoue que là, c'était un peu particulier. J'ai failli appeler votre pote informaticien. Vous savez, quand vous êtes tout perdu, vous dites « Il faut que j'appelle mon pote informaticien.
Bon, » Il ne le dit plus trop.
Ça, c'est quand il appelle sa femme.
Ah oui, c'est peut-être la même personne. C'est peut-être la même personne pour la charge mentale.
Vous foutez de la gueule de ma femme, là ?
De vous, enfin,
de vous. Au moment où on renégocie les contrats pour l'année prochaine.
De vous.
Très intelligent de votre part.
Ah, c'est en ce moment ?
Oui, oui. Visiblement, vous n'êtes pas dans la banque.
Moi, je n'ai pas commencé. Bon, bref, à cœur vaillant, rien d'impossible. Je vous délivre un micro-trottoir quand même sur le quantique dans la prochaine demi-heure.
Hâte d'entendre ça. Vers 16h30, ai-je été un peu vite ? Ai-je été médisant en annonçant que Manon et Quentin étaient des buses en physique ? Occasion leur sera donnée de me démentir avec un zoom-zoom test spécial loi rigolote de la physique, avec par exemple le désopilant second principe de la thermodynamique de Planck et Boltzmann qui établit que... Boucherie en perspective, dans quiz. Après 17h, restez avec nous, surtout si en 76, comme Cyril, vous chantiez à tue-tête. Dans Zoom Zoom Back, nous remonterons le temps jusqu'en 1976, année de création du parti auquel est toujours encarté aujourd'hui Cyril, le dernier encarté d'ailleurs, le RPR. Mais d'abord, zoom donc sur ce mystérieux ordinateur quantique. Vincent Strubel, déjà très concrètement, est-ce que cet ordinateur quantique, il existe déjà aujourd'hui quelque part dans le monde ?
Alors, oui et non, il existe des prototypes d'ordinateurs quantiques, c'est-à-dire des choses qui commencent à ressembler à l'ordinateur quantique, qui font ce qu'on attend d'un ordinateur quantique, c'est-à-dire calculer des choses beaucoup plus vite. Certains calculent beaucoup plus vite qu'un ordinateur classique. En revanche,
quand on dit beaucoup plus vite, c'est dans quelle proportion ?
C'est des calculs qui prendraient des milliards d'années sur un ordinateur classique.
Ah oui.
Qui peuvent être réalisés en quelques jours, quelques semaines. Donc c'est significatif. Chose à garder à l'esprit aujourd'hui, c'est que les prototypes d'ordinateurs, de calculateurs quantiques qui existent aujourd'hui, ils font des calculs qui ne servent pas à grand-chose, en fait. Donc c'est plutôt théorique. Ça démontre que c'est possible,
mais
on n'est pas encore dans des applications très concrètes. Okay. On est comme, vis-à-vis de l'aviation, l'avion de Clément Ader. Celui qui a décollé de 20 cm et qui a volé sur 50 mètres en ligne droite. Donc c'est pas super impressionnant, mais c'est l'annonce de choses qui peuvent être beaucoup plus impressionnantes.
Et on entend beaucoup de spécialistes du domaine de l'IA qui nous donnent des dates très précises sur l'avènement de la superintelligence. En IA, on voit les progrès qui vont arriver. Est-ce que là, l'ordinateur quantique, on peut dire dans combien d'années on en aura un entre les mains ?
Alors, quelqu'un qui vous donnerait une date précise probablement mentirait. Il reste plein d'obstacles à lever. Si ça fait que des calculs qui ne servent pas à grand-chose aujourd'hui, c'est qu'il y a des bonnes raisons. Mmh. Donc il reste des choses à faire. On est sur un pas de temps de 10 ans. On imagine vers 2035, il y a quand même un potentiel, un risque, selon comment on regarde le verre à moitié plein, à moitié vide, qu'il existe vraiment un ordinateur quantique qui fasse des vrais calculs qui ont un impact sur la vie réelle.
Ordinateur quantique, mon cul. Telle fut la conclusion nette et précise de Cyril Lacarrière à l'issue du visionnage de la vidéo YouTube expliquant l'ordinateur quantique en 3 minutes, sachant qu'il s'était endormi pendant les pubs, ne sachant pas qu'on pouvait cliquer sur passer l'annonce, il s'était donc arrêté à...
Salut, c'est Franck Leboeuf.
Cyril, même... Cyril, même si cette nouvelle technologie...
Très bonne vanne.
Même si cette nouvelle technologie vous laisse un peu dubitatif, on va dire si est, hein, mon
Cyril. C'est même pas dubitatif, c'est vraiment imperméable à tout ça. Moi, c'est...
Bon, pourtant, c'est le monde de demain, et on fait l'émission sur...
Sur l'air du temps,
ce qu'il en restera de moi d'ici là, vas-y.
Essayez de rester motivé quand même, accrochez-vous, mon vieux. Je vous pose la question, Cyril, la physique quantique, d'où ça sort ?
Imaginez, vous regardez un film Marvel, Ant-Man, et dès qu'il faut expliquer quelque chose d'impossible, hop, on sort la carte du royaume quantique. Dans les rayons de librairie, vous allez trouver des livres sur la médecine quantique, le management quantique, l'amour quantique. Quantique est devenu un mot magique, un mot fourre-tout. Ouais. À l'origine, quantique, ça vient du latin quantum. Est-ce que vous vous souvenez de ça ?
La série Code Quantum,
c'est ça ?
C'est Code Quantum, mais je ne connais pas le générique.
Ah d'accord. Ouais. Effectivement, la série Code Quantum, multidiffusée sur M6, l'histoire de l'inventeur d'une machine à voyager dans le temps qui se retrouve à chaque fois projetée dans le corps d'un personnage différent. Bref, Quantum, ça veut dire combien ? C'est une histoire de quantité, une histoire de paquet.
Et à qui doit-on cette découverte ?
Max Planck, un des fondateurs de la mécanique quantique. On est au tout début du XXe siècle, le physicien allemand essaie d'expliquer comment la chaleur se transforme en lumière, mais il galère. Il finit par élaborer une théorie. L'énergie ne coule pas en continu, mais comme de l'eau du robinet, mais elle arrive par petits paquets, par petits grains. Bon, il appelle ses grains des quantas, vous n'avez rien compris, moi non plus, vraiment. Mais Vincent, vous nous expliquez. Pour vous décomplexer, quoi de mieux qu'une citation d'un prix Nobel, celle de Richard Feynman. Si vous croyez comprendre la mécanique quantique, c'est que vous ne la comprenez pas.
Ah, merde.
Parfait, c'est effectivement ce qui me rassure. Merci Richard, Vincent, c'est à vous.
Oui, merci Cyril. Vincent Strubel, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est la mécanique quantique simplement, ou c'est pas possible de l'expliquer simplement?
Je pense que personne ne la comprend vraiment. Enfin, c'est juste se admettre qu'à une échelle très petite, la matière, tout se comporte très bizarrement. Et donc les règles qu'on a l'habitude de voir dans notre environnement ne s'appliquent pas, que un électron, il peut être à plein d'endroits différents, il n'est pas à un endroit donné, il est partout en même temps, avec des probabilités différentes d'être à tel ou tel endroit, qu'un photon c'est pareil, c'est à la fois une particule, une onde, il y a plein de choses qui sont difficiles à appréhender, donc on pourrait se dire tout ça c'est du blabla ou de la théorie fumeuse, mais la réalité c'est que ça fait après 100 ans qu'on a ce type de théorie, qu'elle marche, qu'elle montre leurs applications dans plein de choses. Et donc, c'est la base de la physique moderne.
Mais est-ce qu'elle se concrétise, cette physique quantique, dans l'ordinateur quantique? Comment elle se concrétise? C'est un ordinateur physiquement, il y a quoi? Il y a une carte mère? Ou c'est d'autres éléments qui ne sont pas les éléments traditionnels d'un ordinateur?
Alors, si vous voyez une photo d'un ordinateur quantique, ça ne ressemble pas du tout à un ordinateur. Alors, c'est très gros parce que généralement, ça tourne près du zéro absolu. Hein, c'est des semi-conducteurs. Il faut que ce soit très froid.
C'est un meuble, c'est une pièce.
Un genre de meuble.
Il y a un écran.
Il y a pas d'écran. Non, on pourrait plus parler de calculateur quantique que d'ordinateur quantique, okay. Hein, parce qu'on se représente l'ordinateur,
c'est un clavier, un écran.
C'est un super calculateur. Ouais. C'est quelque chose qui est dans une grande pièce avec plein de tuyaux autour pour faire du froid, par exemple. Et qu'est-ce que ça fait? Ça fait des calculs d'une manière différente, effectivement, avec des super. Alors c'est pas on parle de qubits au lieu de bits, c'est pas des trucs qui prennent une infinité de valeurs, ça prend des 0 et des 1, sauf que ça prend les deux à la fois. Un qubit, c'est la version informatique du chat de Schrödinger qui est dans sa boîte, qui est à la fois mort et vivant. Je vous recommande pas d'essayer avec un vrai chat, hein, ça marchera pas, et c'est pas sympa pour le chat, mais à l'échelle de la mécanique quantique, ça marche. Donc ça permet de calculer, au lieu de faire comme un ordinateur habituel, normal, calculer une valeur par une valeur, ça fait des calculs sur plusieurs valeurs à la fois qui sont superposées. À la fin, il y a toujours un seul résultat, hein. c'est pas magique. Il y a des erreurs, on tombe pas toujours sur le bon résultat, il y a des probabilités, des choses comme ça. Donc ça fait pas tout plus vite, mais il y a certains calculs qui sont très lents aujourd'hui, qu'on peut faire beaucoup plus vite, et avec plein d'applications, sympa ou moins sympa.
Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël, sur France Inter.
Imaginez un ordinateur capable de deviner tous les mots de passe de tous les internautes du monde. Un ordinateur si puissant qu'on a du mal à comprendre ce que cette puissance pourrait donner justement. Eh bien, tremblez, car cet ordinateur arrive. Zoom aujourd'hui sur l'ordinateur quantique. Le directeur général de l'ANSSI, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, Vincent Strubel, est avec nous pour essayer de comprendre les menaces que fait planer ce futur ordinateur quantique. Justement, il faut parler des menaces. C'est quoi la nature de cette menace que ferait peser sur nous cet ordinateur?
Alors, pour être un tout petit peu optimiste, faut déjà rappeler que l'ordinateur quantique, quand il fonctionnera vraiment, il aura plein d'applications formidables. Il permettra de faire des choses utiles à l'humanité, bien mieux, voire les faire tout court, parce que c'est pas possible aujourd'hui. Des prévisions météorologiques à très long terme, de la recherche médicale, trouver des médicaments qui n'existent pas, faire plein de choses extrêmement intéressantes. Donc la majorité des applications de l'ordinateur quantique sont formidables. Malheureusement, dans mon métier à moi, qui est la cybersécurité, c'est un problème. Le jour où ça arrive, c'est un problème, parce que parmi les problèmes qui sont difficiles à calculer aujourd'hui, il y a ceux sur lesquels repose tout un pan de la cryptographie. La cryptographie, c'est ce qui est la base de toute la sécurité dans tous nos usages du numérique. Votre téléphone, il fait de la cryptographie pour relever vos mails, pour se connecter au réseau, pour protéger vos communications privées. Les banques, elles font de la cryptographie pour protéger toutes les transactions bancaires, même quand vous payez avec votre téléphone ou votre carte. Nos secrets diplomatiques, ils sont protégés par le chiffrement, c'est-à-dire par de la cryptographie. Il n'y a rien dans le numérique qui fonctionne de manière correcte sans cryptographie.
Et ce que vous dites, c'est que l'ordinateur quantique va pouvoir décoder tout ça avec une facilité déconcertante.
Et le jour où un ordinateur quantique efficace de la taille, de la taille nécessaire est mis au point, il fait s'effondrer tout ça. En tout cas, la moitié de la cryptographie aujourd'hui et le reste fonctionne pas.
Il faut qu'il soit connecté à Internet quand même.
Il faut qu'on lui donne des choses à calculer qui soient intéressantes. Mais il peut faire casser de la cryptographie, c'est-à-dire que c'est l'équivalent dans le monde numérique d'un passe-partout universel qui ouvre toutes les portes, celles des voitures, des maisons, des banques, tout ce que vous voulez. Et donc là, il y a un problème.
Il y aura 2-3 jours, il faudra être réactif, Quentin, vous pourrez gagner beaucoup.
Oui. Mais qui est en pointe aujourd'hui dans la découverte de cet ordinateur? Nous, on se positionne comment en France, par exemple?
Je pense que c'est une compétition mondiale.
Ouais,
je ne sais pas s'il faut se positionner en tant que France ou en tant qu'Europe.
Mmh.
C'est plutôt des continents qui cherchent ça. On n'est pas en retard. On a une école française, alors de cryptographie qui est particulièrement réputée. La physique quantique, on a quand même un certain nombre de prix Nobel remarquables dans le domaine. Donc on part pas de rien.
Mmh.
Après, c'est une question d'investissement, comme toute recherche scientifique fondamentale ou appliquée. C'est une question d'avoir de la chance aussi, d'avoir la bonne idée au bon moment, de lever différentes barrières d'ingénierie.
Mais Chine, la Russie se positionnent comment, par exemple?
La Chine cherche aussi l'ordinateur quantique, et les États-Unis aussi, évidemment.
Donc c'est une course contre la montre.
C'est une course contre la montre, mais avec des obstacles théoriques qui n'ont pas été levés. Donc c'est pas juste à celui qui mettra le plus d'argent sur la table, même si c'est une donnée importante du problème. Là encore, la science, elle progresse aussi parce que à un moment, des gens ont des idées formidables que personne n'avait eues avant eux. Et donc, on ne peut pas prédire qui trouvera l'ordinateur quantique en premier. Peut-être qu'il l'utilisera en premier à des choses utiles, peut-être pas. Aujourd'hui, on est à ce stade des pionniers, des choses qui sont des démonstrateurs qui n'ont pas d'utilité concrète, mais qui peuvent très rapidement se transformer en choses très utilisables.
On parle souvent, y compris dans cette émission, de la course à l'intelligence artificielle. Est-ce que la course à l'ordinateur quantique, elle est de même niveau? Est-ce qu'elle est aussi intense? Et est-ce qu'il ne faudrait pas donner la priorité à cette course pour le quantique, sachant si c'est quelque chose qui peut faire sauter tout le système?
C'est deux courses qu'il faut mener en parallèle, qu'on mène en parallèle, qui ne sont pas déterminées par les mêmes choses. Hein. L'intelligence artificielle aujourd'hui, ses progrès, ils sont guidés assez directement par les investissements, par la quantité de données qu'on est capable de faire ingérer à des modèles, par la quantité de la puissance de calcul qu'on peut mettre sur le sujet. Celui qui aura un ordinateur quantique, il gagnera peut-être aussi des choses sur l'intelligence artificielle. Les deux sont un peu liés. L'ordinateur quantique, il faut chercher, d'une part, et c'est de la physique aussi très théorique, et puis il faut s'y préparer. Ça, c'est plus mon métier.
Mais comment vous y préparez? On peut se préparer à quelque chose qui n'existe pas encore?
C'est l'anticiper, déjà, c'est comprendre ce que ça aura comme impact, comprendre cet impact que ça aura sur la cryptographie, parce que il faut pas attendre d'y être pour s'en rendre compte. Là, on aura un énorme problème si on s'y prend comme ça. Et donc, on a environ 10 ans pour se préparer, pour, dans mon domaine à moi, mettre de la nouvelle cryptographie, des nouveaux algorithmes de cryptographie qui existent déjà en plus. Parce qu'on a pensé ça à l'avance, hein, l'idée que l'ordinateur quantique cassera de la cryptographie, ça date des années 90, ça date de 1995.
Ah oui.
On a identifié cette possibilité bien avant que les premiers démonstrateurs d'ordinateurs quantiques ne soient mis au point. Et donc, on y travaille depuis des années sur le plan théorique pour trouver d'autres problèmes mathématiques. L'ordinateur quantique, il ne calculera pas tout très vite. Il y a certains problèmes qu'il calculera vite, d'autres pas. Et donc, il faut basculer vers ces autres problèmes mathématiques. La théorie est au point, et donc là, on a devant nous 10 ans pour déployer cette théorie dans nos usages, depuis nos ordinateurs, nos téléphones, jusqu'aux systèmes d'information de l'État les plus...
Je compte sur vous, Pierre. J'ai pas envie que mes comptes bancaires se retrouvent dans la nature.
Ah ça
Changez cette coque, déjà.
Oui, comment ça va, ma coque? C'est ma coque zèbre. Elle est très belle, ma coque zèbre. Quentin, vous ne connaissez rien à la mode. C'est étonnant, d'ailleurs,
en plus,
votre compagne.
C'est la coque de madame, donc attention.
Oui, déjà, deux critiques sur Madame Noël en une seule émission. Vraiment, c'est une catastrophe pour vous.
Ça sent les points en moins.
Ce n'est pas la première fois qu'il se retrouve à devoir parler d'un sujet qu'il ne maîtrise pas. On se souvient notamment de sa traversée du désert, quand il avait dû interroger des passants sur un mot qu'il n'arrivait même pas à prononcer, l'extremely large telescope.
Ah ouais. Extremely large.
Alors Quentin,
j'étais arrivé comme ça. Voilà.
Extremely large.
Vous avez une idée?
Mais de quoi vous nous parlez? Hey. Quentin, vous qui me disiez hier soir encore ne rien comprendre à cette histoire d'ordinateur quantique, comment avez-vous fait pour parler aux gens?
Ah, je vous avoue que aller interroger le grand public sur l'ordinateur quantique en 2026, c'est comme parler de la voiture volante en 82, année de votre naissance, vieux schnock. Bref, ça restera.
Très belle année, grand millésime pour le Bordeaux.
Ça restera un des grands moments de ma carrière de micro-trotteur. Première rencontre au hasard, cette jeune femme.
Ordinateur quantique... Non, ça me dit rien du tout.
Rien? Oh bah tiens, bizarre,
oh,
rien
non.
Du tout. Je lui parle d'un ordinateur puissant, comme on peine à l'imaginer. Elle part sur le futur.
Moi, dans le futur, je me vois bien avec un ordinateur que j'utilise par la pensée, exactement.
Ouais, ce serait fou.
Afin de faciliter les tâches.
Ça veut dire qu'on pense à un truc et il le fait?
Oui.
Ah, mais ça veut dire qu'il est un peu en nous.
Exactement. Mais je pense qu'avec le temps, ça deviendra comme ça, le monde.
Ah, est-ce que le quantique nous mènera à un futur bionique? Tiens, lui qui arrive n'est pas bionique, sauf peut-être sa hanche. Bonjour.
Bonjour.
Quel est votre prénom à vous?
François.
François, vous avez quel âge ?
68 ans.
Qu'est-ce que vous faites dans la vie ?
Retraité, ordinateur quantique. Par rapport aux mathématiques quantiques, je suppose ?
Oui, alors je tente, bah c'est facile de répondre ça, je tente de lui expliquer un système informatique si puissant qu'il pourra décoder tout ce qui existe actuellement.
C'est bien pour les dossiers Epstein. C'est un côté frauduleux, non, si vous cassez des codes de sécurité.
Vous êtes calé en informatique, vous ?
Oui, vraiment, les bases, pas plus.
Qu'est-ce que vous faites en informatique ?
Ben, de la saisie, en fait.
Qu'est-ce que vous faites sur votre ordinateur, typiquement, vous ?
Rien, en fait. Il faut que j'en rachète un. Parce que...
Vous envoyez des mails ?
Oui, voilà, oui.
Ouais, ben on va dire ça. Est-ce que ça l'inquiète, tout ça, lui, à 68 ans ?
Non, parce que c'est comme un frigo. Vous le débranchez, ça marche plus. C'est pas du tout la même approche, parce que vous l'avez eu dès la maternelle. Donc vous n'avez pas le même regard. Moi, je dis, c'est bien, on nous a vendu la dématérialisation. D'accord, une clé USB, vous mettez 5000 données ou je sais pas quoi. Vous évitez des classeurs rangés dans des armoires.
Vous savez qu'en plus des clés USB, maintenant, il y a le cloud.
Oui.
C'est quoi ? Vous louez de l'espace de stockage de données.
Ah oui, la clé USB, c'est plutôt du passé.
Oui. C'est déjà fini.
Comme moi.
Oh, on l'embrasse.
Vous essayez de vous foutre la gueule des vieux aujourd'hui dans votre micro-trottoir.
Pas du tout.
Mais c'est de la gêne,
trop gentil.
Vous entendez que je galère un peu. J'enfourche mon méga scoot électrique et nous voilà en quelques minutes devant une école d'informatique. C'est ici que je croise la route de ce jeune homme.
Salut.
Quel est votre prénom à vous ?
Oscar.
Qu'est-ce que vous faites dans la vie ?
Bah, je suis étudiant du coup.
Ouais.
Étudiant, cinquième année.
Cinquième année, il découvre le sujet de Zoom Zoom Zen.
Ordinateur quantique. Futur ?
Ouais, ça c'est le futur.
Ouais, faut que je dise plus.
Est-ce que c'est un bon thème d'émission ? Est-ce qu'on fait bien de se pencher sur ce truc-là ?
Je pense que vous êtes en avance. Vous êtes en avance parce que c'est développé encore que chez les GAFAM. Enfin, vous trouverez pas en tout cas beaucoup de gens qui ont des sujets là-dessus.
Ouais,
ça
c'est sûr. Ouais, merci Oscar, j'avais remarqué. Alors, à toi de nous dire des choses intelligentes sur le sujet.
L'informatique, comme on le connaît aujourd'hui, c'est assez c'est logique. C'est-à-dire que c'est soit 0, soit 1. C'est même une expression qu'on dit tout le temps. Soit c'est binaire, quoi. Soit c'est 0, soit 1. Le quantique, c'est pas du tout binaire. C'est vraiment, on joue avec un état. Et en fait, on sait même pas encore le gérer, cet état-là. On sait pas comment faire pour que ça aille dans le sens où on veut que ça aille. Donc là, pour l'instant, les gens, ils font des tests. Nous, on se renseigne, on a des cours là-dessus, mais on a plutôt de la vulgarisation là-dessus. C'est un peu à l'image des IA, où ça fait un peu boîte noire.
Mais je sens que lui, c'est un sujet qui le stimule, qui l'intéresse.
Non, parce que moi, je suis plus cybersécurité, mais nous, on en parle beaucoup en cybersécurité, parce que le quantique va être une grosse révolution là-dedans. Tout ce qu'on utilise pour sécuriser les données, bah, en fait, ça n'existera plus. Là, on parle pas même forcément de mots de passe, parce que les mots de passe, on sait déjà faire, en fait. Donc là, on est déjà à ce niveau-là. On parle plutôt même de sécurité beaucoup plus importante, du style... Votre trafic sur internet, tout ce qui est fait en fait par ce qu'on appelle des certificats, donc des choses qui certifient qu'on est la bonne personne, là on va pouvoir craquer ça. Alors après, l'ordinateur quantique est encore loin du grand public aussi, mais oui, c'est sûr que ça va mettre un gros bouleversement un peu partout, ça c'est sûr.
Alors avant de partir, et je commence à mieux comprendre, j'ai du mal à savoir si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle.
C'est une super bonne nouvelle, ça avance, c'est super. Aujourd'hui on est limité en informatique, mais par deux ressources, c'est l'argent et c'est le temps. L'informatique quantique, ça ouvre vraiment un truc parallèle qui permet de dire ok, bah on a un truc à recommencer à zéro et là on peut aller beaucoup plus loin encore. Donc c'est une super nouvelle. Après, à voir comment ça va aller. Vive le qubit.
Ouais, face à un labyrinthe, le cerveau humain avance à tâtons. Il se trompe, recule, hésite quand on est dans un labyrinthe et finit par trouver la sortie. Ça, c'est l'informatique classique si on doit l'imager. L'ordinateur quantique, lui, essaie tous les chemins en même temps. Il ne cherche pas la sortie, il la connaît déjà. Pendant qu'on se demande par où on est rentré, lui est déjà ressorti. C'est nous en mieux, en plus vite. Et vive les qubits.
Bien. J'ai rien compris à cette conclusion.
Bah, voilà. Non, moi je suis pas d'accord.
Mais je vais vous dire pourquoi. Parce qu'elle n'écoute pas.
Mais c'est
bien sûr que si j'écoute,
c'est
hyper attentive.
Parce que moi j'ai tout écouté en revanche, Quentin. J'ai trouvé ça excellent.
C'est pas mal.
Vous pouvez même enfourcher votre méga scooter électrique fièrement tout à l'heure, je pense,
faire,
parce que là vous avez appris au fil du micro-trottoir.
Oui.
C'est intéressant. Et j'ai vu Vincent Strubel qui opinait du chef.
Merci.
Sur Oscar quand Oscar décrivait les problèmes de cybersécurité et les problèmes que le quantique va poser.
C'est super rassurant de se dire qu'un étudiant en cybersécurité aujourd'hui il entend parler de ces sujets-là. Parce qu'il a raison, hein, on n'y est pas encore, mais c'est maintenant qu'il faut se préparer. Donc c'est maintenant qu'il faut se préparer, déjà parce que des secrets qu'on protège aujourd'hui, peut-être qu'on doit les garder secrets au-delà de 2035, donc il vaut mieux l'anticiper, et puis parce que 10 ans, ça va très vite. Pour changer, quand il s'agit de changer quelque part toute notre informatique, ça va très vite. C'est, enfin, on est un peu dans le Titanic, mais qui a vu l'iceberg 5 minutes avant. Donc,
qu'est-ce qu'on peut faire pour
paniquer
minutes,
ouais. On a le temps de tourner, mais il ne faut pas non plus rester à regarder le paysage trop longtemps,
hein,
parce que ça
ne tourne
pas sur place.
Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël sur France Inter.
Les lois de la physique n'ont aucun secret pour eux. Manon, si je vous dis par exemple, loi d'Avogadro.
Ça me fait des gaz.
Stupéfiant, quand on sait que selon cette loi, des volumes égaux de gaz différents aux mêmes conditions de température et de pression contiennent le même nombre de molécules. C'est fou, vous aviez raison. Plein dans le mille. Ce quiz va donc être pour vous une formalité puisqu'il sera consacré aux lois amusantes de la physique. Jouons au Zoom Zoom Test.
Eh oui, Jamy.
Oui, Quentin, vous rigolez, mais je crois que vous avez qualifié le producteur de cette émission tout à l'heure de vieux schnock, ce qui fait que vous allez démarrer le quiz avec 2 points de pénalité.
J'embrasse sa femme, en revanche.
On débute doucement pour éviter de se faire les croisés du gai savoir d'emblée avec le fameux second principe de la thermodynamique de Planck et Boltzmann, selon laquelle, dans un système isolé, le désordre ou entropie ne peut qu'augmenter. Ressaisissez-vous, Manon, il n'y a même pas encore eu de question.
Vraiment.
La voici. Parmi ces 3 propositions, laquelle ou lesquelles en sont l'illustration de ce fameux principe de la thermodynamique ? On ne peut pas remettre du dentifrice dans un tube ? On ne peut pas reconstituer un œuf cassé. Ou quoi qu'on fasse, les satanés fils des écouteurs sont toujours entortillés dans une poche.
A et B. On a dit A et B.
Qu'est-ce que vous faites, Quentin? Pourquoi vous cachez le visage?
Mathieu,
pour pas voir le...
Mathieu.
Ah, l'invité qui vous fait laisser.
Je change, je dis les 3.
Oui, mais c'est vraiment dommage parce que vous aviez la bonne réponse. C'est catastrophique, c'était A et B. Les réponses A et B, si je dois résumer.
Attends, parce que ça marche aussi les écouteurs.
Mais oui, ça marche les écouteurs, c'était une blague, c'est pour ça.
Je suis pas là pour réfléchir, Quentin. Je suis là pour présenter le Zoom Test qui est très différent. Désolé de vulgariser autant pour mes 2 prix Nobel. La nature évolue toujours vers l'état le plus désordonné, ce qui me permet enfin de rétablir une vérité. Cela fait des mois, que dis-je, des années, que je subis vos remarques infamantes sur le chaos qui règne sur mon bureau. Où, c'est vrai, de nouvelles espèces ont fini par naître au fond des tasses à café. Eh bien, c'est pas moi qui suis bordélique, c'est la nature. Et moi, la nature, c'est sacré. Pour la prochaine question, on va redescendre d'un cran puisque visiblement, je vous ai surestimé une fois
plus.
En plus,
on a des souris et tout.
Oui, on embrasse. Comment elle s'appelle? Madeleine.
J'allais dire Marguerite, non.
Je l'ai vue hier soir, elle est toute petite.
Elle est très mignonne.
Elle a eu des enfants.
Oui. Comme vous avez du mal, visiblement, à conceptualiser, je vais vous donner un exemple concret. Nous sommes mercredi soir. Après avoir justement attendu plus d'une heure au Barlonne, votre bar fétiche drag-friendly du 9e arrondissement, vous décidez de vous replier vers l'appartement d'Alicia, notre réalisatrice pole danseuse. Le plus fou, je signale à l'auditeur, c'est que tout ça est vrai.
C'est vrai.
Chez Alicia, vous faites connaissance de sa chatte, Madame Gustave.
Qui est trop belle.
Traduction.
Bonjour les hommes. Non.
Bonjour Madame Gustave, répond troublée Pierre Courade, qui n'avait jamais été autant troublée par une chatte. Bref, à un moment de la soirée, évidemment, Manon va renverser son verre de tequila sur Madame Gustave. Et c'est là qu'une question scientifique se pose. Pour quelle raison un chat mouillé paraît-il plus petit qu'un chat sec ? C'est lié à l'effet de miniaturisation thermique, le choc thermique de l'eau froide provoque une rétraction des fibres de kératine. C'est dû à l'effet de la colle moléculaire, les molécules d'eau s'attirent entre elles, soudant les poils les uns aux autres et écrasant la fourrure contre le corps. Ou c'est dû à l'effet de décompression gazeuse, l'eau dissout l'oxygène piégé sous les poils, créant un vide d'air qui aspire la peau du chat vers l'intérieur.
B, j'ai dit avant.
Je suis devant.
Je crois que néanmoins c'est Manon qui est devant. Effectivement, réponse B. Et oui, quand elle est mouillée, la chatte d'Alicia paraît plus petite que lorsqu'elle est sèche.
C'est la science
qui l'explique. L'eau déteste être étalée. Elle cherche toujours à former la forme la plus petite possible, la sphère. Et en voulant se rétracter, elle colle les poils entre eux en virant l'air qui donnait le volume au chat. Mais attention.
Parce que moi, je suis allergique aux poils de chat d'Alicia.
Oui, on l'a vu, vous n'êtes pas bien aujourd'hui. On part maintenant en Suisse. Véritable vivier de génie, puisque, outre moi, je vous présente mon compatriote Daniel Bernoulli, médecin, physicien et mathématicien du 18e siècle, dont le principe de Bernoulli, donc, permet un truc assez important. Il permet aux sous-marins de changer de profondeur, aux vélos d'avancer ou aux avions de voler.
Oh, c'est dur.
C'est. Ah.
Vous avez vraiment torché la question, quoi, répondant le premier truc qui vous venait. Eh bien, c'est une bonne réponse. C'est. Et oui, c'est au 18e. Au 18e, non pas que R. Kelly lance son premier tube, mais que Bernoulli drop un banger sur la dynamique des fluides. Je vous la fais courte. Lorsque la vitesse d'un fluide augmente, la pression diminue, ce qui, associé plus tard au profil des ailes d'un avion, crée la portance, principe fondateur de l'aviation moderne. Par contre, si les sous-marins peuvent monter ou descendre à volonté sans imploser, c'est grâce à qui ? À Archimède ? À Pascal ? Ou à Pascal le grand frère ?
A et B, les deux ?
J'ai dit A.
Oui, joli Quentin. A et B.
Oh !
Vous avez réfléchi ou vous avez tenté un...
Non, je crois que je l'avais.
À nouveau, je vous la fais courte. Comme
pourquoi
dirait,
Pascal?
Comme dirait Quentin avant 5 à 7, I'll make it quick. Archimède a eu l'idée des ballasts qui se remplissent pour descendre ou se vident pour monter.
D'accord.
Quant à Pascal, pas le grand frère, l'autre, il a compris que l'importance que l'eau s'appuie de la même façon partout sur la coque. S'il y a un point plus faible, la pression s'y engouffre et le sous-marin implose. Comme l'estomac de Cyril après un chili con carne mal calibré. Oh, défaite de l'élégance.
Non,
mais victoire de Manon grâce au point bonus. Grâce au point bonus, effectivement, 1-0, ce n'est pas glorieux.
Bah, je suis dégoûté.
Vous avez été plutôt bon sur la physique.
Oui, c'est fou.
De manière étonnante.
C'est fou.
La menace de l'ordinateur quantique cet après-midi dans Zoom Zoom avec le directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, Vincent Scrubel.
On dit quantique ou quantique?
J'ai entendu que Vincent disait quantique.
J'ai entendu les deux aussi.
Voilà. J'ai suivi Vincent.
C'est une superposition.
Voilà, c'est la manière d'être poli à l'invité, mais si vous voulez souligner le fait que l'invité prononce mal le titre de notre émission, si vous voulez, allez-y, mais discutez directement avec lui alors.
Voilà,
Vincent, le jour de l'avènement de cet ordinateur quantique a déjà un nom, c'est le Q-Day. D'ici là, vous parlez d'une menace d'attaque rétroactive qui se met déjà en place. C'est quoi une menace d'attaque rétroactive?
Ben, c'est simplement le fait que des secrets qu'on protège aujourd'hui avec du chiffrement, alors il y en a qui n'ont pas vocation à rester secrets très longtemps, c'est pas grave, mais il y en a qui sont secrets pour longtemps. L'ordinateur quantique, il arrive dans 10 ans, il sait casser le secret qu'on a utilisé pour protéger nos communications d'aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'il y a des choses qui aujourd'hui sont bien protégées et qui le seraient moins
très mal
dans 10 ans. C'est, on met nos données dans un coffre-fort aujourd'hui, on le ferme à clé, peut-être qu'on perd la clé. Et ben si dans 10 ans, il y a le passe-partout universel, on a perdu.
Mais comment, est-ce que nous, particuliers, on peut se prémunir de tout ça? On peut installer... Non, mais on va installer des choses sur nos ordinateurs pour éviter d'être cyberattaqué ou voilà, victime de sécurité, alors, de failles de sécurité.
Aujourd'hui, particuliers, entreprises, administrations, peu importe, on a intérêt à bien utiliser de la cryptographie pour protéger nos secrets, même si elle n'est pas résistante dans 10 ans à un hypothétique ordinateur quantique. Après, il y a notre travail à nous, experts de cybersécurité, mais plus généralement à tous les fournisseurs du numérique aussi qui doivent se mobiliser là-dessus pour ne pas se retrouver au pied du mur dans 10 ans et donc dans les 10 ans qu'on a devant nous, intégrer ces nouveaux mécanismes qu'on dit post-quantiques, ça va pas encore simplifier le concept, mais qui permettent d'être résistants à l'ordinateur quantique quand il arrivera. Et ça commence par les éditeurs de logiciels, les fabricants de téléphones, les fabricants de cartes bleues, tout ça, avec
lesquels
on travaille.
Ils le font déjà quand même ?
Ils commencent à le faire et on leur met la pression pour qu'ils le fassent. Donc c'est des questions qu'il faut commencer à se poser, qu'il faut commencer à poser. Alors quand on est un particulier, il ne faut pas aller à la boutique demander un téléphone quantique, hein, ça ne marchera pas, ou post-quantique. Ça fera bizarre, ça ne fera pas mieux qu'un micro-trottoir sur le sujet. Mais quand on est une administration, c'est des questions qu'on commence à poser. Nous, ce qu'on dit au sein de l'ANSSI, par exemple, c'est à partir de 2030, l'État n'achètera plus des produits de sécurité, des logiciels qui ne soient pas protégés contre cette menace.
Mais attendez, parce que là, on a un problème de timing. On parle de course contre la montre. Vous dites 10 ans. Mais il faut que vous soyez prêt avant l'ordinateur lui-même. Parce que si jamais quelqu'un est d'abord un ordinateur, on va dire en Chine, je ne sais pas pourquoi, et qu'il le connecte à Internet, il aspire tout, et ils ne vont pas nous prévenir pour nous dire toc toc, on a l'ordinateur quantique, là, ça sera fini. Il faudra que toutes ces stratégies, cette cryptographie post-quantique, il faudra qu'elle soit prête avant. Et donc, vous fixez l'horizon 2030 pour qu'elle soit opérationnelle ?
2030, alors après, tout est une question de priorité aussi. Il y a des choses, on identifie déjà des secrets de l'État qui doivent rester secrets pendant très longtemps, des secrets d'enquête, des secrets diplomatiques, des choses comme ça, et ceux-là, ils sont déjà protégés. Mmh. On a déjà des méthodes pour protéger de l'information sur le long terme. Après, il faut aller par priorité décroissante, des choses qui doivent rester absolument secrètes pendant un certain temps, des usages sur lesquels c'est pas finalement gravissime. On fait ça dans l'ordre, et on fait ça de manière progressive, sachant qu'on a quelque part le temps de faire ça. 10 ans, en 10 ans, on renouvelle quand même l'essentiel de notre informatique. De toute façon, vous n'allez pas garder vos téléphones 10 ans, la plupart. Vos ordinateurs, c'est pareil. Vos logiciels, ils seront mis à jour bien plus régulièrement que ça. Donc c'est dans ce cycle-là.
Il y a des niveaux de protection, on l'a compris, différents. Et, par exemple, j'imagine les codes nucléaires, ça doit être extrêmement bien cryptés ou conservés. Je sais pas, c'est quoi le dispositif autour de ça pour que personne ne puisse forcer cette sécurité-là?
Vous pensez vraiment que je vais répondre à cette question-là?
Vous pouvez même pas me dire comment. Vous pouvez même même pas me dire comment ça fonctionne.
Non, mais ces choses-là sont bien protégées. Voilà, il y a des choses avec lesquelles on prend même pas de risque sur la cryptographie actuelle.
D'accord. On est encore sur autre chose.
On est sur ceinture, bretelles et plus si affinité. Enfin, voilà.
Mais Quentin. Sur un QD, puisque vous l'appelez comme ça, il pourrait y avoir un bug général. On se fait attaquer un jour. Je sais pas, le système informatique de tous les hôpitaux de France tombe à plat. Il y a une forme de révolution. Ça pourrait nous arriver, ça ?
C'est schématiquement oui, mais c'est quand même un peu plus compliqué que ça, parce que déjà, on est quand même sur un progrès itératif. Hein. Aujourd'hui, les ordinateurs quantiques, ils font des calculs qui servent à rien super vite. Ils vont se rapprocher progressivement d'applications utiles. Et donc, on va voir émerger des capacités qui, peu à peu, se rapprocheront du Q-Day. Mais ce ne sera pas la veille, on se couche et puis on ne se doute pas. Et le lendemain matin, il y a un Q-Day et finalement, tout est cassé. Ça, c'est quand même une image de l'esprit. Et puis, par contre, et là, c'est moins sympathique à s'imaginer, mais il est quand même possible que le premier qui mettra au point un ordinateur quantique, il ne le crie pas sur tous les toits.
Ouais, c'est ça, et qui commence à l'utiliser sans dire
ce soir pour faire des choses discrètement.
Bah ouais, c'est ça.
Et oui, mais si c'était la Russie, par exemple, on ne serait pas dans la merde, Vincent. Oui. Vous écoutez France Inter. Oui, mais vous aimez mes analyses un peu comme ça. Frappez au coin du bon sens.
Bon,
vous écoutez France Inter et vous faites bien si vous ne voulez pas être largué en informatique.
Vous réécoutez en replay du coup.
Ah, moi je me réécoute en podcast, surtout cette émission. Bah ouais, si je vais la réécouter. Tu vas la réécouter, tu sais, en vitesse 0,5 pour aller lentement et bien comprendre.
C'est pas tous comme vous, Quentin.
La pièce jointe de Manon Mariani.
L'un des meilleurs films des années 2000.
La matrice est un système, Néo. Et ce système est notre ennemi.
Vous entendez la voix de Laurence Fishburne et qui est Morpheus dans Matrix, sorti en 1999. Un film réalisé par les sœurs Wachowski qui a marqué toute une génération avec ses combats au ralenti, ses manteaux noirs, ses lunettes, sa bande originale et surtout avec une idée devenue culte. Et si le monde dans lequel on vit n'était pas réel ? Matrix raconte l'histoire de Neo, interprété par Keanu Reeves, un programmateur un peu paumé qui découvre que la réalité n'est qu'en fait une immense simulation créée par des machines. Les humains y vivent branchés, plongés dans un faux quotidien pendant que leur corps sert de batterie, une fable de science-fiction mais qui s'inspire de références philosophiques, religieuses, politiques et culturelles. Les sœurs Wachowski ont souvent expliqué s'être nourries de la philosophie de Platon et de son célèbre mythe de la caverne, des hommes enchaînés qui prennent des ombres pour la réalité. On retrouve aussi l'influence du cyberpunk, un courant de science-fiction des années 80, obsédé par les méga-corporations, la technologie omniprésente et les hackers en rébellion. Visuellement, Matrix pioche beaucoup dans l'animation japonaise mais aussi les film de kung-fu, hein, d'où ses chorégraphies très stylisées. On se souvient évidemment du fameux Bullet Time où Neo évite des balles au ralenti tout en se baissant, c'est culte. Et au milieu de toutes ces inspirations, il y a en toile de fond quelques idées venues de la physique quantique. Par exemple, la notion que la réalité n'est peut-être pas quelque chose de fixe et absolu, mais une construction. En physique quantique, certaines théories suggèrent que l'état des choses dépend de l'observation, tant qu'on ne mesure pas plusieurs possibilités coexistent. Matrix transforme cette idée en fiction. Le monde n'existe que parce que notre cerveau y croit. C'est là que Matrix touche juste. Il ne parle pas seulement de machines, mais véritablement de conditions humaines, de notre rapport aux écrans, aux images, aux récits qu'on consomme, de notre difficulté à distinguer le confort de l'illusion et l'inconfort de la vérité. 25 ans plus tard, Matrix résonne encore autrement. On vit connecté en permanence, nos identités circulent en ligne et une partie de notre existence se déroule déjà dans des espaces numériques. Alors, va-t-on prendre la pilule bleue ou va-t-on prendre la pilule rouge ?
Elle m'a donné envie de le revoir, dis donc.
J'ai cru de prendre la pilule bleue, j'ai eu peur quand même. Vincent Strubel, est-ce que... Alors, Matrix, évidemment, c'est de la science-fiction, même s'il y a quand même quelques idées qui résonnent aujourd'hui de manière de plus en plus étonnante avec notre quotidien et notre futur proche. Est-ce que l'ordinateur quantique, on en parle d'un point de vue technologique aujourd'hui, est-ce que ça peut être plus qu'une révolution technologique ? Est-ce que ça peut être un basculement civilisationnel ? En fait, est-ce que ça peut avoir des implications au-delà de la technologie ?
Ça peut avoir des implications scientifiques au-delà de la technologie, parce qu'il y a des calculs qui sont aujourd'hui impossibles, et que donc, à partir du moment où on pourra faire ces calculs sur un ordinateur quantique, on va peut-être découvrir des tas d'autres choses dans le domaine de la physique, dans le domaine médical.
Oui,
dans
ça
le
va
domaine,
ouvrir vers d'autres
voilà, révolutions. Ça ouvre plein de possibilités, de choses qu'on aimerait bien, de problèmes qu'on aimerait bien résoudre, mais qu'on n'est pas capable de résoudre. Enfin, on pourrait se dire, on lance un calcul et dans un milliard d'années, on verra le résultat, mais ça, personne n'imagine ça. Si demain, semaine même calcul, il prend une semaine, ah bah, il y a quelqu'un qui essaiera. Alors, est-ce que ce sera bien, est-ce que ce sera pas bien, est-ce que probablement que ça, il y aura un mix des deux. Donc oui, ça va ouvrir potentiellement plein de possibilités.
France Inter.
C'est plus qu'un événement, un séisme dans le petit monde du fleuret. Après des années d'absence, le D'Artagnan de Bigorre a effectué récemment son grand retour dans le club très fermé de l'escrime. Oui, c'est vrai, c'est pas très rapide, mais c'est normal. Des années à s'encrouter au cornichon, Pierre a un peu perdu de ses réflexes d'antan, mais ça va revenir, je suis sûr. En attendant, Pierre Courade va nous résumer tout ce qu'on s'est dit sur l'ordinateur quantique.
J'ai rien perdu de mes bottes secrètes comme celle qui consiste à résumer une émission sur l'ordinateur quantique que j'ai écoutée tout en regardant les dernières épreuves des Jeux Olympiques. L'ordinateur quantique au cœur de nos préoccupations, surtout après ce que vient de nous annoncer notre invité, le directeur général de l'ANSSI, l'Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information, Vincent Strubal. Il nous a expliqué que d'ici 10 ans, un ordinateur nouvelle génération sera inventé. Il sera doté d'une technologie basée sur la mécanique quantique, une prouesse technique qui repose sur le calcul par paquet de données, ce qui fait que cet ordinateur ne déchiffrera pas les informations les unes après les autres, mais toutes en même temps. Si bien que si un ordinateur actuel met plusieurs milliards d'années à résoudre un calcul, un ordinateur quantique, lui, ne mettra que quelques jours ou quelques semaines tout au plus. Une capacité de calcul qui inquiète, car l'ordinateur quantique pourra servir à des personnes ou à des états mal intentionnés à hacker tous les mots de passe et donc tous les systèmes de sécurité du monde. Cet ordinateur pourra casser la cryptographie, les mécanismes de chiffrement qui protègent actuellement nos données sensibles, bancaires, diplomatiques, etc. On comprend ainsi pourquoi les nations se sont lancées dans une course contre la montre pour être la première à inventer cet ordinateur. Aujourd'hui, il n'existe que des prototypes, mais il faut dès à présent se préparer à contrer ce passe-partout universel. On a 10 ans pour s'en prémunir, on compte sur notre invité pour nous protéger. Et au passage, on embrasse la chatte d'Alicia.
Évidemment, on l'embrasse fort. Et vous, pour vous protéger, de toute façon, vous avez votre fleuret.
Absolument, mon fleuret, mon masque, ma cuirasse,
vous êtes
ma culotte.
Vous êtes prêt avec votre culotte à lutter contre l'ordinateur quantique.
Ça vous a donné une ampoule au doigt quand même, cette histoire.
Absolument, mais c'est un sport de combat, l'escrime. Hein.
Très bien.
C'est violent.
Enfin, les amis, une semaine ne saurait se terminer sans l'apparition quasi christique de celui qui a le pouvoir de racheter nos péchés, au sens propre, parce que je peux vous dire qu'à la grande époque de Canal, il a palpé le salaud, mais il ne le fait jamais. Bonjour François Rollin.
Bonjour, bon ben mon cher Mathieu, cette semaine, ça a failli être bien. On peut sortir le champagne, en revanche, restons calmes, il n'y a pas lieu de le déboucher. Ça avait très bien commencé dès lundi avec le sujet de la parité électorale. La parité, c'est un combat de civilisation essentiel sur lequel notre pays a manifestement bien du mal à entrer dans l'ère moderne, notamment au moment des échéances électorales. Je l'avais déjà dit en 2007 à cette antenne, il serait grand temps que la France se donne enfin une présidente de la République. Cette fois-là, Sarkozy avait ruiné mes espérances. Mais la question demeure, avec un vrai petit plus en 2027, une question qui va animer joyeusement ou tragiquement les plateaux médiatiques et les repas dominicaux. Une femme présidente, oh oui, quelle bonne idée, une femme présidente. Point de suspension, même si c'est Marine Le Pen. Trois points d'interrogation et trois points d'exclamation. Bon, mardi, formidable émission avec un des héros de ma jeunesse, le pongiste Jean-Philippe Gatien. Un régal pour moi qui a d'abord été biberonné à Jacques Secrétin et Vincent Purcard, les héros de mon enfance qui m'ont donné l'envie de jouer en club. J'ai même été classé 45, figurez-vous. Je ne sais pas si ce classement existe encore. Et ma passion n'a pas molli au point que je jouerais actuellement au club de Nogent-sur-Marne si seulement j'avais pu trouver une place dans ces structures saturées par l'effet Lebrun, Félix et Alexis, les héros de ma vieillesse. Mercredi, formidable, vous avez reçu Sylvie Piala, la femme du regretté Maurice Piala et son légendaire. Eh bien, si vous ne m'aimez pas, sachez que je ne vous aime pas non plus. Sylvie Piala, productrice inspirée du film Partir un jour d'Amélie Bonin, film dans lequel s'illustrent Juliette Armanet, Dominique Blanc, Bastien Bouillon, Toufik Jalad, et qui donc... Merci les amis. Jeudi, tant toujours au beau fixe avec l'émission sur Cuba, une île de beauté et de culture dont on aimerait tant qu'elle parvienne à sortir de la dictature. Et je me disais, ça y est, on y est, nous entrons dans la carrière et nous fêtons Noël, champagne. Et puis, vin ce vendredi. Le sujet était plutôt pas mal choisi, les ordinateurs quantiques, mais où êtes-vous allé chercher l'hurluberlu qui s'en prétendait spécialiste? Ah pardon, c'est vous monsieur. Écoutez, alors ne le prenez pas mal, il n'y a rien contre vous, c'est juste histoire de casser le moral à l'équipe de Zoom Zoom Zen. Il faut me comprendre, je suis payé pour ça. Donc on ne débouche rien. On débouchera, si vous trouvez l'énergie la semaine prochaine, de traiter le sujet de la tragique obsolescence des bons mots et des histoires drôles. Avec deux exemples, l'orchestre de chambre de Pau, qui ne fait plus rire personne depuis que les pots de chambre ont disparu de nos existences, tandis que la spécialité de Béziers, vantée par Francis Blanche, la très grosse envie, n'a pas pris une ride. Hein, la très grosse envie de Béziers. Second exemple, cette histoire désopilante que racontait mon père, l'histoire d'une compagnie d'aviation désespérée par le fait que les ailes de ses avions se cassaient en deux systématiquement en plein milieu. On avait essayé tous les remèdes, sans résultat, et en désespoir de cause, on avait appliqué le conseil, apparemment loufoque, d'une vieille dame qui préconisait de percer une rangée de petits trous au milieu des ailes. On le fit, et dès lors, plus aucune aile jamais ne cassa. On s'enquit auprès de la dame de l'origine de sa solution miracle et elle révéla qu'ayant été dame pipi pendant 40 ans, elle avait observé que le PQ ne se déchirait jamais à l'endroit des petits trous supposés séparer les feuilles. Cette histoire, à part vous Mathieu, ne fait plus rire personne. Depuis la disparition dans les années 80 des rouleaux de papier dits bulle cordelis avec séparation à petits trous. Au passage, ce constat cruel d'obsolescence alimentera utilement la fameuse question « Peut-on rire de tout ?» Allez, salut les rigolos.
Merci beaucoup François Rollin pour cette bouffée nostalgique. On vous retrouve la semaine prochaine dans Zoom Zoom Zen. Vincent Strubel, vous, on ne vous retrouve pas ou alors c'est qu'on a des problèmes puisque vous êtes le directeur général de l'ANSSI, l'Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information. Merci de nous avoir initiés à l'ordinateur quantique et aussi alertés sur ses dangers. Zoom Zoom Zen.